Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit la silhouette obscure d'une femme qui se penchait sur lui. Un instant, il crut que c'était elle. Mais il se rendit bientôt compte qu'il s'agissait d'un médecin de la force. « Est-ce que je suis mort ? » murmura-t-il. « Vous l'avez été. Vous vous trouvez à bord du vaisseau hôpital Merrick. Vous avez fait l'objet de plusieurs procédures de résurrection et de rénovation, mais vous n'en gardez probablement aucun souvenir à cause des effets de la fugue. Nous allons maintenant passer au stade thérapeutique suivant. Vous sentez-vous capable de marcher ?» Il souleva un bras pour se cacher les yeux. Malgré la désorientation due à la fugue, il avait de vagues souvenirs des douloureuses séances de thérapie, des longues heures passées dans les bains de virus ARN et sur la table d'opération. Surtout la table d'opération. « Quelle route faisons-nous » demanda-t-il sans cesser de s'abriter les yeux. « J'ai oublié comment nous allons regagner le Retz. » Elle sourit comme si c'était une question qu'elle entendait chaque fois qu'il sortait de fugue, ce qui était bien possible. Nous ferons escale sur Hyperion et sur Garden, dit-elle. Nous sommes actuellement sur le point de nous mettre en orbite autour de... Elle fut interrompue par un vacarme de fin du monde. Des barrissements de trompettes, des déchirures de métal, des hurlements de furie. Il se laissa rouler à bas de son lit, enroulant le matelas autour de lui dans sa chute sous une gravité d'un sixième de G. Une tornade balaya le pont, faisant voler plateaux, éprouvettes, literies, livres, infirmières, instruments de métal et innombrables autres objets divers dans sa direction. Hommes et femmes glapissaient avec des voix de fausset de plus en plus aiguës à mesure que l'air quittait la cabine. Le matelas de Cassade heurta une cloison. Il regarda à travers ses mains crispées demeurées sur ses yeux. À un mètre de lui, une araignée de la taille d'un ballon de football, dont les pattes s'agitaient frénétiquement comme des tentacules, était en train d'essayer de se forcer un passage à travers une brèche soudain apparue dans la cloison. Elle semblait s'acharner à battre de ses tentacules en folie les papiers et autres détritus qui tourbillonnaient autour d'elle. Puis elle pivota vers Cassade, et celui-ci réalisa qu'il s'agissait de la tête du médecin qui lui avait parlé. Elle avait été arrachée par la première explosion, et sa longue chevelure s'agitait frénétiquement en direction du visage horrifié de Cassade. Puis la brèche s'élargit, et la tête s'y engouffra. Il se redressa juste au moment où l'axe des mâts de spin cessa de tourner et où le haut et le bas cessèrent d'exister. Les seules forces encore en action étaient les tornades qui précipitaient tout vers les brèches de la cloison et l'écœurant mouvement de tangage et de ballottement du vaisseau. Cassade s'efforçait de remonter le courant en se halant vers la porte de la coursive où se trouvait l'axe de spin au moyen de tout ce qui pouvait lui fournir une prise. Il parcourut les derniers mètres en se propulsant d'un coup de talon. Un plateau de métal le heurta au-dessus de l'œil. Un cadavre aux yeux dégoulinants de sang faillit le repousser en arrière dans la salle de soins. La porte étanche battait inutilement contre le cadavre d'un marine en combinaison spatiale qui l'empêchait de se refermer. Cassade se propulsa en direction de l'axe, dans lequel il s'introduisit tout en traînant le corps du marine derrière lui. La porte étanche se referma, mais il n'y avait pas plus d'air dans le puits de l'axe que dans la salle de soins. Quelque part, le hurlement d'une sirène devenait de plus en plus aigu et inaudible. Cassade hurla aussi, essayant de se libérer de la pression qui menaçait de faire éclater ses poumons et ses tympans. L'axe de spin aspirait toujours de l'air. Il était entraîné, sur les 130 mètres qui le séparaient du corps principal du vaisseau, en compagnie du cadavre du marine, qui semblait exécuter avec lui quelques macabres valses dans un puits sans fond. Il lui fallut 20 secondes pour faire sauter les attaches de secours de la combinaison du marine, puis une minute pour l'en extirper et s'y introduire à sa place. Il mesurait au moins 10 cm de plus que le mort et, bien que la combinaison fût en partie ajustable, elle lui faisait mal au cou, aux poignets et aux genoux. Le casque lui pressait le front comme un étau rembourré. Des gouttelettes de sang et d'une matière blanchâtre et humide maculaient l'intérieur de la visière. L'éclat de shrapnel qui avait tué le marine avait laissé un trou d'entrée et un trou de sortie, mais la combinaison s'était auto-réparée de son mieux. Cependant, la plupart des voyants étaient au rouge, et Cassade n'obtint aucune réponse quand il demanda une évaluation des dommages. Le respirateur fonctionnait encore, mais avec un sifflement inquiétant. Il essaya la radio. Rien, pas même un souffle. Il retrouva le fil de raccordement du Persoc, fiché dans un thermex relié à la coque. Rien non plus. Le vaisseau eut à ce moment-là un brusque mouvement de tangage et une succession de chocs métalliques se répercuta jusqu'à Kassad, qui fut projeté contre la paroi du puits de l'Axe. L'une des cages de transport passa devant lui en culbutant, ses câbles sectionnés battant comme les tentacules d'une anémone de mer affolée. Il y avait des cadavres à l'intérieur, et d'autres ballottés dans les parties encore intactes de l'escalier en spirale qui faisait le tour du puits à l'extérieur. Kassad se propulsa jusqu'à l'extrémité du puits, et y trouva toutes les portes étanches fermées. Le diaphragme du puits s'était également refermé, mais il y avait des brèches dans la cloison primaire par lesquelles on aurait pu faire passer un VEM civil. Le vaisseau fit une nouvelle embardée, et tout fut secoué de plus belle à l'intérieur. Kassad se trouva animé, ainsi que tout ce qui se trouvait à l'intérieur du puits, par des forces complexes de Coriolis. Il se raccrocha à une poutrelle de métal tordu et se hissa à travers une brèche de la triple coque du Méric. Il faillit éclater de rire en voyant dans quel état se trouvait l'intérieur. Ceux qui avaient pris pour cible le vieux vaisseau hôpital n'avaient pas fait les choses à moitié. La coque avait été éventrée avec des BCC jusqu'à ce que les joints de pressurisation cèdent, que les unités d'autopressurisation se désagrègent, que les détecteurs d'avarie soient saturés et que les cloisons intérieures s'effondrent. Le vaisseau ennemi avait alors déversé ses missiles, munis de charges militaires curieusement baptisées mitrailles par les spécialistes de la force, à l'intérieur de la coque. L'effet équivalait à peu près à celui qu'aurait pu produire une grenade antipersonnelle, explosant à l'intérieur d'un labyrinthe rempli de rats de laboratoire. La lumière pénétrait par mille ouvertures, se transformant en rayons irisés partout où elle trouvait une base colloïdale suffisante dans les nuages flottants de poussière, de lubrifiants et de sang. De l'endroit où se tenait Kassad, secoué par les trépidations du vaisseau, il apercevait plus d'une vingtaine de cadavres, nus et déchiquetés, qui dansaient avec la grâce sous-marine trompeuse d'un ballet d'outre-tombe sous gravité zéro. La plupart des corps flottaient au centre d'un microcosme de tissu et de sang. Plusieurs regardaient Kassad de leurs yeux exorbités, comme dans un dessin animé, et les mouvements lents et langoureux de leurs bras et de leurs mains semblaient lui faire signe de s'approcher. Kassad se propulsa à travers les débris flottants jusqu'au puits de descente qui menait au cœur de manœuvre du vaisseau. Il n'avait pas vu d'armes jusque-là. Apparemment, personne, à l'exception du marine, n'avait eu le temps de s'équiper d'un scaphandre. Mais il savait qu'il devait y avoir une armurerie, dans le cœur de manœuvre ou dans le quartier des marines à l'arrière. Il s'arrêta devant le dernier joint de pressurisation déchiqueté. Il laissa échapper un rire, cette fois-ci derrière sa visière. Le puits de descente s'arrêtait là. Il n'y avait plus de tronçon arrière, plus de vaisseau. Le tronçon où il se trouvait, un puits d'axe et un module de soins, avait été arraché au vaisseau aussi aisément que Beowulf avait arraché un bras au corps du monstre Grendel. La dernière porte non fermée du puits de descente s'ouvrait sur l'espace. À quelques kilomètres de là, Kassad apercevait une douzaine d'autres fragments ravagés du Méric, culbutant sur eux-mêmes dans la lumière éblouissante du soleil. Une planète vert et lapis grossissait, si proche que lorsque Kassad se tourna vers elle, il fut pris d'un violent accès d'acrophobie qui l'obligea à s'agripper encore plus fort à l'encadrement d'une porte. Au même moment, une étoile se détacha du limbe de la planète, des lasers de combat crachèrent leur morse couleur rubis, et un tronçon mutilé de vaisseau, à 500 mètres de lui, explosa dans l'abîme spatial, projetant autour de lui une pluie de particules métalliques vaporisées, de matières volatiles gelées, et de points noirs dont Kassad s'avisa qu'ils devaient être des cadavres humains. Il se hâta de retourner dans la sécurité relative des profondeurs de l'épave et considéra la situation. La combinaison du marine lui permettrait de survivre encore une heure au maximum. Déjà, il sentait l'odeur d'œuf pourri du respirateur déréglé. Il n'avait vu, en traversant l'épave, aucun compartiment étanche, aucun caisson d'air. Et même s'il découvrait un sas ou un compartiment susceptible de l'abriter, en quoi cela l'avancerait-il ? Il ignorait si la planète qu'il avait vue était Garden ou Hyperion, mais il était sûr que la force n'occupait aucun de ces deux mondes. Il était également certain qu'aucune force de défense locale n'était capable de tenir tête à un vaisseau extro. Des jours s'écouleraient avant qu'une patrouille ne vienne explorer cette épave. Et il n'était pas impossible que l'orbite de la carcasse pourrie qui lui servait d'abri se dégrade peu à peu, précipitant ses milliers de tonnes de métal vers une atmosphère qui la consumerait avec tout ce qu'elle contenait. Les autochtones n'apprécieraient pas beaucoup cela, mais il était peut-être préférable pour eux de laisser un morceau de ciel leur tomber sur la tête que de faire quelque chose qui risquerait de mécontenter les extros. Si la planète possédait des systèmes de défense orbitale, même primitifs, ou bien des BCC sol-espace, se disait-il avec un sourire sinistre, il serait plus intelligent pour eux de pulvériser l'épave que de s'attaquer au vaisseau extro. Pour Kassad, de toute manière, cela ne ferait aucune différence. Il serait mort longtemps avant que la carcasse ne pénètre dans l'atmosphère ou que les autochtones ne passent à l'action. L'écran amplificateur du marine avait été fêlé par le shrapnel qui l'avait tué, mais Kassad fit descendre ce qu'il en restait à hauteur de sa visière. Des voyants rouges clignotèrent. Cependant, il restait assez d'énergie dans la combinaison pour afficher une vue amplifiée d'un vert pâle sur le fond craquelé. Kassad repéra ainsi le vaisseau torche des extros, à une centaine de kilomètres de là, avec ses champs de protection qui occultaient les étoiles à l'arrière-plan. Plusieurs objets furent lancés à ce moment-là. Un instant, Kassad fut persuadé que c'était le coup de grâce et qu'il n'avait plus que quelques secondes à vivre. Un sourire amer éclaira son visage. Puis il remarqua la faible vitesse des engins et augmenta légèrement l'amplification. Les voyants rouges clignotèrent de plus belle, et l'amplification tomba en panne, mais Kassad avait eu le temps d'apercevoir les formes ovoïdes, effilées à l'arrière, hérissées de propulseurs et de bulles de cockpit. Chaque engin remorquait un enchevêtrement de 6 bras manipulateurs sans articulation. Les militaires de la force appelaient ces vaisseaux d'abordage extro des « calmars ». Kassad s'enfonça au cœur de l'épave. Il estimait qu'il ne disposait que de quelques minutes avant que les calmars n'arrivent jusqu'à lui. Combien d'extros pouvait-il y avoir à bord de ces engins? Une dizaine? 20? Pas moins de 10 en tout cas, et ils seraient puissamment armés, équipés de viseurs infrarouges et de détecteurs de mouvement. Ce seraient des commandos d'élite, l'équivalent des marines de l'hégémonie, non seulement entraînés à se battre sous gravité zéro, mais vivant depuis toujours en impesanteur. Leurs longs membres, leurs orteils préhensibles et leurs prothèses caudales leur donnaient un avantage accru dans ce type d'environnement. Et des avantages, ils en avaient déjà bien plus qu'il ne leur en fallait pour affronter Kassad. Il se tapit silencieusement au milieu des morceaux de ferraille tordus, en luttant contre la montée d'adrénaline qui le poussait à se précipiter, hurlant de peur dans les ténèbres extérieures. Que cherchaient les extros? Des prisonniers. C'était une manière immédiate de résoudre son problème de survie. Il n'avait qu'à se rendre. L'ennui, c'était qu'il avait vu des holos des services de renseignement de la Force montrant l'intérieur des vaisseaux extra-capturés dans l'espace de Brescia. L'un des vaisseaux contenait dans ses soutes de conservation plus de 200 prisonniers. Et les extras avaient dû avoir beaucoup de choses à demander à ces citoyens de l'hégémonie. Peut-être était-ce dû à leur désir de ne pas s'encombrer de tant de bouches à nourrir et de tant de prisonniers à garder. Peut-être était-ce le fait de leur manière de procéder aux interrogatoires. Toujours est-il que les civils de Brescia et les militaires capturés de la force avaient été trouvés écorchés vifs, éventrés et cloués sur des râteliers comme des grenouilles dans un laboratoire de biologie, leurs organes baignant dans des fluides nutritifs, leurs bras et leurs jambes amputés avec une précision chirurgicale, leurs yeux retirés, leur cerveau préparé pour l'interrogatoire à l'aide de rudimentaires contacts corticaux et de dérivations connectées directement à un appareillage de communication à travers des trous de 3 cm de diamètre pratiqués dans la boîte crânienne. Kassad se hala doucement en se laissant flotter parmi les débris enchevêtrés des faisceaux de câblage de la carcasse. Il ne tenait vraiment pas à se rendre. Il sentit le choc de l'accostage lorsqu'un engin extro au moins heurta la coque, stabilisant un peu l'épave. « Utilise ta cervelle », se dit-il. Plus que d'une cachette, il avait surtout besoin d'une arme. Qu'avait-il vu en se traînant tout à l'heure dans l'épave qui pourrait éventuellement l'aider à survivre? Il s'immobilisa et resta agrippé tout en réfléchissant intensément à une longueur de câble de fibre optique à nu. La salle de soins où il avait repris conscience, les lits, les caissons de fugue, l'appareillage médical de soins intensifs, presque tout cela avait été aspiré à travers la coque du module à effet de spin. Le puits de l'axe, la cage de transport, les corps partout, aucune arme dans tout cela. Presque tous les cadavres avaient été déshabillés par le souffle des bombes à mitraille ou par la décompression subite. Les câbles des cages élévatrices? Non, ce serait trop long. Impossible de les sectionner sans outils. Des outils? Il n'en avait vu nulle part. Bureau éventré le long de la coursive médicale, salle d'imagerie, caissons RM, cuves CC béantes comme des sarcophages pillés. Au moins un bloc opératoire intact, mais à l'intérieur un fouillis d'appareils et de câbles flottants de toutes sortes. Le solarium, vidé de tout ce qu'il contenait lorsque les vitres avaient éclaté. Les salles d'attente, les salles de repos du personnel, les salles d'entretien, les couloirs. Des cellules affectées à un usage indéterminé. Et encore des cadavres un peu partout. Il ne demeura là que quelques secondes de plus, le temps de s'orienter dans le dédale de lumière et d'ombre, puis il se propulsa d'un coup de talon. Il avait espéré pouvoir disposer de 10 minutes, mais ils ne lui en laissèrent même pas 8. Il savait que les extros se montreraient méthodiques et efficaces dans leur fouille. Mais il avait sous-estimé leur capacité sous gravité zéro. Il jouait sa vie sur l'espoir qu'il ne serait pas plus de 2 à chaque ratissage. C'était la procédure standard des marines de la force qui ressemblait à celle des paras de l'armée de terre à qui l'on apprenait à progresser, dans les combats de rue, d'une entrée de porte à l'autre, l'un faisant irruption dans chaque pièce tandis que l'autre le couvrait. S'ils étaient plus de 2, si les extros travaillaient par patrouille de 4, Kassad était probablement fini. Il flottait au milieu de la salle d'opération numéro 3 lorsque l'extro franchit la porte. Le respirateur de Kassad était en train de rendre l'âme. Il était immobile, aspirant par saccade haletante un air vicié, lorsque le commando s'introduisit d'un bond, s'écarta de la porte et amena ses 2 armes d'un mouvement tournant sur la silhouette désarmée d'un marine en combinaison cabossée. Kassad avait escompté que l'aspect délabré de son costume spatial et de son casque lui ferait gagner 1 seconde ou 2. Derrière la visière maculée de sang, ses yeux étaient braqués vers le haut comme aveugles, tandis que la lumière fixée sur la poitrine de l'extro le balayait. Les 2 armes du commando étaient un étourdisseur sonique à la main et un pistolet à faisceau serré, plus petit mais beaucoup plus mortel, qu'il tenait entre les longs orteils de son pied droit. Il leva d'abord le sonique. Kassad eut le temps de remarquer l'aiguillon de combat de sa prothèse caudale. Puis il appuya sur la commande qu'il tenait dans son gantelet droit. Il lui avait fallu presque la totalité des 8 minutes pour connecter le générateur de secours au circuit de la salle d'opération. Une partie seulement des lasers chirurgicaux était encore en état de marche, mais il avait pu en mettre 6 en position. Les 4 plus petits couvraient la zone située juste à droite de la porte, et les 2 lasers à sectionner les os avaient pour cible l'espace de droite. L'extro avait fait un bond sur la droite. La combinaison explosa. Les lasers continuèrent leur cercle préprogrammé, tandis que Kassad se propulsait en avant, passant sous les rayons bleus qui tranchaient maintenant à vide dans une bruine grandissante de fluide de réparation de la combinaison et de sang bouillonnant. Il arracha le sonic au passage, juste au moment où le 2e extro bondissait dans la salle avec l'agilité d'un chimpanzé de l'ancienne terre. Kassad appuya le sonic contre le casque de l'homme et fit feu. L'occupant de la combinaison s'affaissa. La prothèse caudale fit quelques soubresauts dus à des impulsions nerveuses incontrôlées. Utiliser un sonic à cette distance n'était pas la meilleure façon de faire un prisonnier. À bout portant, une décharge sonique transformait un cerveau humain en quelque chose qui tenait davantage de la bouillie d'avoine. Mais Kassad ne souhaitait pas faire de prisonnier. Il se dégagea d'un coup de talon, agrippa une poutrelle et balaya de son sonic l'entrée du corridor. Quelques secondes plus tard, il put s'assurer que personne ne venait de ce côté. Ignorant le premier cadavre, il extirpa le second de la combinaison intacte. Le commando était nu dans son scaphandre et il constata que ce n'était pas un homme, mais une femme. Elle avait des cheveux blonds coupés courts, des seins menus et un tatouage juste au-dessus de la ligne de toison pubienne. Sa peau était d'une pâleur extrême et des gouttelettes de sang s'échappaient de son nez, de ses oreilles et de ses yeux. Kassad prit mentalement note du fait que les extros utilisaient des femmes dans leur commando. Tous les cadavres ennemis trouvés à Brescia étaient de sexe mâle. Il garda son casque et son bloc respirateur pendant qu'il enfilait la combinaison aux formes peu familières. Le vide fit exploser des vaisseaux sanguins dans sa chair. Des aiguilles de froid le figèrent tandis qu'il luttait pour refermer les attaches d'un modèle jamais vu. Malgré sa grande taille, il était encore trop petit pour ce scaphandre de femme. Il pouvait faire fonctionner les gantelets en étirant les bras, mais les moufles des pieds et le logement de la prothèse caudale étaient sans objet pour lui. Il les laissa pendre, inutiles, tout en retirant son casque pour fixer maladroitement le globe extro à sa place. Plusieurs voyants sur la corolle du casque étaient allumés. Ses tympans endoloris lui faisaient entendre le sifflement de l'air qui s'engouffrait. Il faillit suffoquer lorsque d'épais miasmes l'assaillirent. Ce devait être la douce odeur du pays pour un extro, supposait-il. Les pastilles comme du globe susurraient des commandements codés dans un langage qui évoquait une bande audio en anglais archaïque passée à l'envers à grande vitesse. Cassade jouait sa vie, de nouveau, sur le fait que les unités extro fonctionnaient, sur Brescia, par équipe semi-autonome, reliées uniquement par la radio vocale et la télémétrie de base, contrairement aux groupes d'opérations de la force, unis par leurs implants à un réseau tactique. Si c'était un système de ce type qu'ils utilisaient ici, le commandant du groupe devait déjà savoir que deux de ses hommes, ou femmes, manquaient à l'appel. Il disposait peut-être même d'un système de surveillance des paramètres vitaux, mais il n'était pas forcément en mesure de les localiser. Cassade décida qu'il était temps de mettre fin aux conjectures et de quitter cet endroit malsain. Il programma la télécommande des lasers pour qu'il soit activé dès que quelqu'un pénétrerait dans cette salle. Puis il s'enfonça, par petits bonds maladroits, dans le couloir. Se déplacer dans un de ces foutus scaphandres équivalait à essayer d'avancer dans un champ gravifique en se servant de son propre pantalon comme d'une paire d'échasses. Il emportait les deux pistolets à énergie et, n'ayant trouvé aucune ceinture ni boucle, aucun étui, aucune attache velcro, ni poche, ni plaquette mag pour les maintenir, flottait comme un pirate ivre d'holofilm, une arme dans chaque main, rebondissant d'un mur à l'autre. À contre-cœur, il abandonna derrière lui l'un des deux pistolets, tout en essayant de se guider d'une seule main. Le gantelet lui allait comme une mitaine extra large sur la main d'un enfant. Sa foutue queue ballottait de tous les côtés, heurtait la bulle de son casque, et il en avait littéralement plein le cul. Deux fois, il se coula dans des fissures du couloir après avoir vu de la lumière au loin. Il était presque arrivé à la cassure de la coque d'où il avait observé l'arrivée du calmar, lorsqu'il tomba nez à nez, au détour d'un corridor, avec trois commandos extro. Son scaphandre d'extro lui donna un avantage de 2 ou 3 secondes. Il tira presque à bout portant dans le casque du premier. Le deuxième lâcha une décharge sonique qui passa au-dessus de son épaule gauche 1 seconde avant qu'il loge 3 rayons d'énergie dans la plaque de poitrine de l'extro. Le troisième fit un bond en arrière, trouva un triple point d'appui pour s'élancer et disparut au détour d'une cloison déchirée avant que Cassade eut le temps de l'ajuster. Une pluie de jurons, de questions et de commandements rauques fit résonner le casque de Cassade, tandis qu'il lui donnait la chasse sans répondre. L'extro aurait pu s'échapper si, sans doute poussé par un sens de l'honneur retrouvé, il n'avait fait subitement volte-face pour se battre. Cassade ressentit une inexplicable impression de déjà-vu lorsqu'il lui transperça l'œil gauche d'une décharge d'énergie à 5 mètres de distance. L'extro bascula en arrière dans la lumière du soleil. Cassade se propulsa jusqu'à l'ouverture béante et se pencha pour regarder le calmar amarré à 20 mètres de là. C'était, se disait-il, son premier réel coup de veine depuis longtemps. Il plongea à travers l'ouverture en se propulsant des 2 pieds, conscient d'offrir une cible parfaite à la fois pour les occupants du calmar et pour ceux de l'épave. Son scrotum se rétracta de panique comme chaque fois qu'il s'était senti exposé ainsi. Mais aucun coup ne fut tiré. Les ordres et les demandes continuaient de se succéder dans son casque comme des glapissements. Il ne les comprenait pas, il ignorait d'où ils venaient, et il ne tenait pas à engager le dialogue. Son manque de contrôle sur le scaphandre lui fit presque rater le calmar. L'idée le traversa qu'un tel gag risquait de sonner le glas approprié de l'univers sur ses prétentions martiales. Le vaillant guerrier de l'espace s'éloignant, sur une orbite quasi-planétaire, sans aucun dispositif de manœuvre, sans aucun propulseur, sans masse de réaction d'aucune sorte. Même le pistolet était sans recul. Sa carrière finirait aussi dérisoirement et inutilement que celle d'un ballon lâché par un enfant. Il tendit les 2 bras jusqu'à ce que ses jointures craquent, happa l'extrémité d'une antenne flexible et se hala, centimètre par centimètre, jusqu'à la coque du calmar. Où était ce foutu sas? La coque était relativement lisse pour un vaisseau spatial, mais ornée d'une multitude de motifs, plaques et panneaux représentant, supposait-il, l'équivalent des avertissements de la force du genre ne pas piétiner ou bien danger propulseur. Il ne voyait d'entrée nulle part. Il était probable que des extros se trouvaient à bord, au moins un pilote, et il devait se demander pourquoi leur commando se traînait sur la coque comme un crabe boiteux au lieu d'actionner le sas. Mais peut-être savait-il déjà pourquoi et l'attendait-il de pied ferme, le doigt sur la détente. N'importe comment, personne, de toute évidence, n'allait lui ouvrir la porte. « Qu'ils aillent au diable !» se dit-il, fracassant l'une des bulles d'observation. Les extros ne devaient pas laisser traîner beaucoup d'objets dans leur vaisseau. Seul l'équivalent de quelques pièces de monnaie et attaches trombones se déversa en même temps que l'air du vaisseau. Cassade attendit la fin du geyser et se glissa à l'intérieur à travers la bulle. Il se trouvait dans la section du matériel, une soute capitonnée qui ressemblait à la chambre de largage des paras de n'importe quel vaisseau de descente ou bien à l'intérieur d'un blindé de transport de troupes. Cassade nota mentalement qu'un calmar devait pouvoir contenir une vingtaine de commandos extro en tenue de combat spatial. Mais celui-ci semblait vide. Une porte étanche ouverte menait au cockpit. Seul le pilote était resté à bord, et il était occupé à se désangler lorsque Cassade l'abattit. Il traîna le corps dans la soute et se sangla dans ce qu'il espérait être le siège de pilotage. Une chaude lumière pénétrait par la verrière au-dessus de lui. Les moniteurs vidéo et les holos montraient des vues de l'avant et de l'arrière du calmar, ainsi que quelques aperçus, pris par une caméra portative, de la fouille qui se déroulait à l'intérieur de l'épave. Cassade entrevit le cadavre de la femme nue du bloc opératoire et les lasers chirurgicaux en action contre plusieurs silhouettes en scaphandre. Dans les holofilms qu'il avait vus dans sa jeunesse, les héros de Fedman Cassade savaient toujours faire marcher du premier coup les engins exotiques et autres véhicules EM dont ils s'emparaient. Cassade était entraîné à piloter des transports militaires, des tanks, des engins d'assaut et même des vaisseaux de descente si la situation l'exigeait. Seul à bord d'un vaisseau de la Force, il aurait pu, si jamais cette situation improbable s'était présentée, retrouver son chemin dans le dédale du cœur de manœuvre au moins pour communiquer avec l'ordinateur central ou pour lancer un message de détresse à la radio ou dans un mégatrans. Mais ici, dans le fauteuil de pilotage d'un calmar extro, il n'avait pas idée de ce qu'il fallait faire pour commencer. Plus exactement, il reconnaissait les alvéoles de manipulation des tentacules et il pensait pouvoir se servir de plusieurs autres commandes pour peu qu'on lui laisse 3 heures de réflexion et d'expérimentation. Malheureusement, il ne disposait pas d'un tel délai. L'écran lui montrait à l'avant 3 silhouettes en scaphandre qui se propulsaient vers le calmar, tout en tirant devant elles. La figure pâle, curieusement extraterrestre, d'un commandant extro se dessina soudain dans le foyer de la console holo, tandis qu'une pluie de jurons se déversait des plaquettes audio de son casque. Des globules de transpiration se formèrent devant ses yeux, flottant à l'intérieur du globe. Il les secoua de son mieux en se concentrant sur les commandes. Il appuya sur quelques plaques dont il croyait deviner l'usage. Si ce vaisseau était piloté par commande vocale, par programmation à distance ou par une sorte d'ordinateur de bord, il était fichu. Il y avait déjà pensé une seconde ou deux avant d'abattre le pilote, mais il n'avait pas trouvé de solution pour forcer l'homme à coopérer. Il n'y avait que ce moyen-là, se disait-il, en enfonçant d'autres plaques de commande. Une tuyère fit entendre le sifflement de sa mise à feu. Le calmar tira sur ses amarres. Cassade se sentit poussé en avant, puis tiré en arrière dans son harnais. « Merde !» s'exclama-t-il, parlant pour la première fois depuis qu'il avait demandé à la femme médecin de la Force sur quelle planète le vaisseau faisait escale. Il se pencha le plus possible en avant, essayant d'introduire les doigts de son gantelet dans les alvéoles. 4 des 6 manipulateurs se mirent en mouvement. Le premier dérapa sur la coque. Le dernier finit par arracher un morceau de cloison à l'épave numérique. Le calmar se libéra d'une secousse. Les caméras vidéo montrèrent 2 silhouettes en scaphandre qui rataient leur cible et une 3e qui se raccrochait à la même antenne qui avait sauvé la vie de Cassade. Celui-ci savait à présent plus ou moins où se trouvaient les commandes des propulseurs. Il les actionna frénétiquement. Un voyant s'alluma sur le tableau. Les projecteurs holo s'éteignirent. Le calmar se lança dans une manœuvre complexe qui réunissait tous les plus violents éléments du tangage, du lacet et du roulis. Cassade vit passer la silhouette en scaphandre au-dessus de la verrière du cockpit. L'écran vidéo avant la montra une fraction de seconde, Puis l'écran arrière prit le relais jusqu'à ce que l'extro ne fût plus qu'un point bientôt invisible. Et pendant tout ce temps, il ou elle continuait de décharger son pistolet à énergie jusqu'à ce que tout disparaisse. Cassade luttait pour ne pas perdre conscience en raison des violents mouvements désordonnés de l'engin. Toutes les alarmes vocales et visuelles étaient déchaînées. Il actionna de nouveau les commandes des propulseurs et estima que ses efforts étaient couronnés de succès lorsqu'il ne se sentit plus écartelé dans 5 directions à la fois, mais dans 2 seulement. La manipulation de la caméra au hasard lui montra que le vaisseau torche s'éloignait. Parfait. Il ne doutait pas que les extros fussent capables de le détruire à tout instant, et il le ferait à coup sûr s'il s'approchait d'eux ou s'il les menaçait de manière quelconque. Il ignorait si le calmar était armé, mais il ne devait pas contenir beaucoup plus que des armes antipersonnelles. Dans tous les cas, aucun commandant de vaisseau torche ne prendrait le risque de laisser s'approcher une navette incontrôlée. Cassade supposait que les extros savaient tous maintenant que le calmar était aux mains d'un ennemi. Il ne serait pas surpris, simplement déçu, d'être vaporisé d'une seconde à l'autre par le vaisseau torche. En attendant, il tablait sur 2 émotions au plus haut degré humaine, sinon extra-humaine, la curiosité et le désir de vengeance. La curiosité, comme il le savait, pouvait être aisément court-circuitée dans les moments de stress. Mais il comptait sur une société semi-féodale et paramilitaire comme celle des extros pour placer au plus haut les concepts d'honneur et de vengeance. Toute chance étant égale, par ailleurs, n'ayant pas la moindre chance de leur faire davantage de mal ni de leur échapper, il semblait bien que le colonel Cassade fût devenu le candidat le mieux placé pour l'accession à l'un de leurs plateaux de dissection. C'était son dernier espoir. Il jeta un coup d'œil au moniteur vidéo avant, fronça les sourcils et relâcha juste assez longtemps son harnais pour regarder par la verrière au-dessus de lui. L'engin tournoyait toujours, mais pas aussi violemment que précédemment. La planète semblait se rapprocher. L'un des hémisphères emplissait l'horizon supérieur, mais il n'avait aucune idée de la distance qui le séparait de l'atmosphère. Il était incapable de lire les paramètres affichés. Il ne pouvait que faire des conjectures sur sa vitesse orbitale et sur la violence du choc en cas de rentrée. Son examen visuel attentif de l'épave numérique lui avait donné l'impression qu'elle se trouvait tout près de la surface, peut-être à plus de 500 ou 600 km, sur une orbite d'attente convenant, par exemple, au lancement d'un vaisseau de descente. Il voulut essuyer la transpiration sur son front et poussa un juron lorsque le bout flasque de son gantelet cogna la visière de son casque. Il était épuisé. Il n'y avait que quelques heures qu'il était sorti de fugue, et on l'avait ramassé corporellement mort à peine quelques semaines de voyage avant cela. Il aurait bien voulu savoir si la planète au-dessous de lui était Hyperion ou Garden. Il ne connaissait ni l'une ni l'autre, mais il savait que Garden était plus peuplée et sur le point de devenir une colonie de l'hégémonie. Il espérait que c'était celle-là. Le vaisseau torche largua 3 engins d'assaut. Cassade les aperçut clairement avant que la caméra de poupe ne les fasse sortir du champ. Il actionna les commandes des propulseurs jusqu'à ce qu'il eût l'impression de dégringoler un peu plus vite vers la muraille planétaire au-dessus de lui. Il ne voyait pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Le calmar atteignit l'atmosphère avant d'être rejoint par les 3 chasseurs extro. Il était probablement à portée de tir, mais quelqu'un, dans le circuit de commandement, devait être assez curieux ou furieux pour ne pas ordonner de faire feu. L'engin de Cassade était loin d'avoir un profil aérodynamique. Comme la plupart des navettes de vaisseau à vaisseau, il était conçu pour flirter avec les atmosphères planétaires, mais ce serait sa perte s'il plongeait trop brutalement dans le puits gravitique. Il vit le rougeoiement caractéristique de la rentrée, entendit l'accroissement de l'activité ionique sur les canaux ouverts de la radio et se demanda subitement si son idée était si bonne que ça. Le flux atmosphérique stabilisa le calmar et Cassade ressentit les premiers effets de la gravité en cherchant, parmi les commandes du fauteuil et du tableau, celle qui actionnait les circuits qu'il espérait trouver. Un écran vidéo envahi par les parasites lui montra l'un des vaisseaux de descente suivi de la traîne de plasma bleuâtre de sa décélération. L'effet d'optique était analogue à celui que connaissaient bien les chuteurs lorsqu'ils voyaient un de leurs compagnons en chute libre au moment où il ouvrait son parachute ou déployait ses suspentes. Le chasseur sembla grimper subitement. Mais Cassade avait d'autres sujets de préoccupation. il ne semblait pas y avoir de mécanisme d'éjection ni de système d'évacuation d'urgence de l'appareil. Toutes les navettes spatiales de la Force étaient munies d'un dispositif de sortie dans l'atmosphère. C'était une habitude qui datait de près de 8 siècles et remontait à l'époque où les vols spatiaux dépassaient rarement la limite de l'atmosphère de l'ancienne Terre. Une navette conçue pour des transbordements de vaisseau à vaisseau n'était pas censée avoir besoin de dispositifs d'éjection atmosphérique. Cependant, les terreurs ancestrales inscrites dans les anciens règlements de sécurité avaient la peau dure. Telle était, tout au moins, la théorie. Cassade ne trouvait toujours rien. Le calmar commençait à trépider dangereusement. Il tournoyait, et la température grimpait rapidement. Cassade défit les attaches de son harnais et se traîna vers la soute, sans même savoir ce qu'il espérait y trouver. Un paquetage de survie, un parachute, une paire d'ailes. Il n'y avait rien à l'exception du cadavre du pilote et de quelques cartons pas plus grands qu'une boîte à chaussures. Cassade les ouvrit, mais n'y trouva rien de plus utile qu'une trousse médicale sans remède miracle. Il entendait maintenant les craquements des membrures du calmar et se disait, agrippé à un anneau à pivot, que les extros n'avaient sans doute pas gaspillé de l'argent ou de la place pour un dispositif qui avait si peu de chances de servir un jour. Pourquoi l'aurait-il fait ? Ils passaient toute leur existence dans l'obscurité des espaces interstellaires et l'idée qu'ils se faisaient d'une atmosphère correspondait au tube pressurisé de 8 km de long d'une de leurs cités de métal. Les détecteurs audio externes de son casque-bulle commencèrent à lui transmettre le sifflement furieux de l'air sur la coque et à travers la verrière cassée de la section arrière. Cassade haussa les épaules, résigné. Il avait trop pris de paris. Cette fois-ci, il avait perdu. Le calmar fit une série d'embardées. Cassade entendit le bruit du manipulateur arraché à l'avant. Le cadavre de l'extro s'envola soudain à travers la verrière cassée comme une fourmi happée dans un aspirateur. Cassade, agrippé maintenant des deux mains à son anneau, avait les yeux tournés vers le cockpit et se disait que ses installations étaient vraiment archaïques, comme s'il s'agissait de pièces de musée. Une partie du revêtement extérieur était en train de brûler. Des fragments enflammés passaient au-dessus des verrières, comme des projectiles de lave en fusion. Cassade ferma les yeux, essayant de se rappeler ce qu'il avait appris à l'école militaire d'Olympus sur les structures et le revêtement des premiers vaisseaux de l'espace. Le calmar était maintenant secoué comme s'il allait se désagréger d'un instant à l'autre dans un tumulte incroyable.
« Par Allah !»
s'exclama Cassade. Il n'avait pas poussé ce cri depuis son enfance. Il se hala frénétiquement en direction du cockpit, luttant contre le souffle qui l'attirait vers l'arrière, en cédant des poignées du pont comme s'il grimpait sur une paroi verticale. Ce qu'il faisait en réalité. Le calmar avait pivoté, stabilisé en un plongeon de la mort, poupe par-dessus tête. Cassade devait lutter contre une force de 3G, conscient du fait que le moindre faux mouvement risquait de rompre tous les os de son corps. Derrière lui, le sifflement de l'atmosphère se transforma en rugissement puis en hurlement de dragon. La soute s'embrasa dans une série d'explosions soufflées. Grimper dans le siège de pilotage équivalait à escalader un surplomb de paroi avec le poids de 2 autres grimpeurs suspendus à son dos. Les gantelets trop grands ne lui facilitaient pas la tâche, tandis qu'il se balançait au-dessus du chaudron en flamme de la section arrière. Puis le vaisseau fit une nouvelle embardée, et Cassade en profita pour ramener ses jambes et se hisser dans le fauteuil. Les moniteurs vidéo avaient cessé de fonctionner. La verrière surchauffée avait un rougeoiement écœurant. Cassade était sur le point de perdre conscience lorsqu'il rassembla ses dernières forces pour se pencher en avant, tâtonnant dans l'obscurité au-dessous du siège, entre ses genoux, à la recherche de « oui ». Une poignée. Non, par le Christ et Allah. Un anneau en D, issu tout droit des livres d'histoire. L'engin était en train de se disloquer. Au-dessus de sa tête, la verrière éclata, répandant du perspex liquide dans tout l'habitacle, éclaboussant la combinaison et la visière de Cassade. L'odeur du plastique fondu parvint à ses narines. Le calmar s'était remis à tournoyer en se désagrégeant. La vision de Cassade rosie, s'affaiblit, disparut totalement. De ses doigts gourds, il serra le harnais. Serra. Où les sangles lui rentraient dans la poitrine, où le perspex avait traversé sa combinaison. Sa main chercha de nouveau l'anneau en D. Ses doigts étaient trop maladroits pour se refermer dessus. Non. Tirer de toutes ses forces. Trop tard. Le calmar explosa en un bouquet final de sifflements et de flammes. Le tableau de commande vola à travers le cockpit en un millier d'éclats de shrapnel. Cassade se sentit écrasé contre son siège. Il se sentit projeté, dans le ciel, au cœur des flammes. Tout culbuta à plusieurs reprises. Cassade eut vaguement conscience du fait que son siège, en basculant, s'était entouré d'un champ de confinement limité. Les flammes étaient à quelques centimètres à peine de son visage. Des charges explosives propulsèrent le siège hors du sillage enflammé du calmar. Le fauteuil éjecté laissait sa propre trace bleue derrière lui, tandis que ses microprocesseurs l'orientaient de manière à interposer l'écran de force entre son occupant et la fournaise de friction. Un géant était assis sur la poitrine de Cassade, tandis qu'il décélérait sur 2000 km de ciel sous une pression de 8 gravités. Il se força à ouvrir les yeux une seule fois, s'aperçut qu'il était replié en position fœtale dans le ventre d'une longue colonne de flammes d'un bleu presque blanc, puis referma les yeux. Il n'avait pas vu trace d'un système quelconque de parachute, de suspension ou de freinage, mais peu importait. Il n'était plus capable de remuer ni les bras ni les jambes. Le géant changea son poids de place, devint plus lourd. Cassade s'aperçut qu'une partie de la bulle de son casque avait fondu ou disparu, emportée par le souffle. Le vacarme était insupportable. Mais quelle importance! Il serra les paupières encore plus fort. C'était le moment de faire un somme. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il vit la silhouette indistincte d'une femme penchée sur lui. Un instant, il crut que c'était elle. Puis il la regarda attentivement et vit que c'était bien elle. Elle lui toucha la joue de ses doigts glacés. « Est-ce que je suis mort ? » murmura-t-il en levant la main pour lui saisir le poignet. « Non. » Sa voix avait une douceur un peu rauque, voilée par un léger accent qu'il ne parvenait pas à identifier. C'était la première fois qu'il l'entendait parler. « Es-tu réel ?»«
Oui. »
Il soupira et regarda autour de lui. Il était nu sous une robe de chambre légère sur une sorte de lit ou de plateforme, au milieu d'une grande salle obscure comme une caverne. Au-dessus de lui, les étoiles étaient visibles à travers une brèche du plafond. Il tendit l'autre main pour lui toucher l'épaule. Ses cheveux formaient un nimbe noir au-dessus de lui. Elle portait une robe ample d'un tissu fin qui, même à la lumière des étoiles, lui laissait voir les contours de son corps. Il respirait son parfum, fait de l'arôme délicat du savon, de sa peau et du reste d'elle qu'il se rappelait si bien de leur précédente rencontre.
« Tu dois avoir des choses à me demander, »
murmura-t-elle, tandis que Cassade dégrafait la boucle dorée qui maintenait sa robe. Le vêtement glissa dans un froissement soyeux. Elle ne portait rien d'autre. Au-dessus d'eux, la ceinture de la Voie lactée était parfaitement visible.
« Non. »
fit Cassade en l'attirant contre lui. Au petit matin, une brise se leva, mais Cassade remonta sur eux la couverture légère dont l'étoffe fine sembla préserver la chaleur de leur corps, tandis qu'ils demeuraient blottis dans les bras l'un de l'autre dans une quiétude parfaite. Quelque part, des rafales de sable ou de neige crissaient contre les murs nus. Les étoiles étaient nettes et brillantes. Ils se réveillèrent peu de temps après le point du jour, leur visage se touchant sous la couverture soyeuse. Elle passa la main le long de la hanche de Cassade, s'arrêtant sur ses cicatrices anciennes et récentes.
« Ton nom !» chuchota Cassade.
« Chut !» fit-elle en laissant glisser sa main plus bas. Il enfouit son visage dans le creux parfumé de son cou. Ses seins étaient chauds et doux contre lui. Une lumière pâle les baignait. Quelque part, un vent de sable ou de neige crépitait contre les murs nus. Ils firent l'amour, se rendormirent, refirent l'amour. Puis ils s'habillèrent. Il faisait maintenant plein jour. Elle avait disposé pour lui sur le lit des sous-vêtements, une tunique et un pantalon gris. Il lui allait parfaitement, de même que les chaussettes de mousse et les chaussures souples. Elle avait un ensemble du même genre, bleu marine.
« Dis-moi ton nom. »
lui redemanda Cassade tandis qu'il quittait le bâtiment à la toiture défoncée et sortait dans les rues d'une cité morte.
« Moneta, »
lui répondit la fille de son rêve.
« Ou bien Mnemosyne, celui que tu préféreras. »«
Moneta, » chuchota Cassade. Il leva les yeux vers un minuscule soleil qui se levait dans un ciel lapis. « Hyperion ? » demanda-t-il.
« Oui. »
« Comment suis-je arrivé à la surface ? Un champ de suspension ? Un parachute ?»«
Tu es descendu sous une aile dorée. »
« Je n'ai mal nulle part. Je n'ai pas été blessé. »
« On s'en est occupé. »
« Où sommes-nous ? »
« C'est la cité des poètes, abandonnée depuis plus d'un siècle. Derrière cette colline se trouvent les tombeaux du temps. »
« Et les chasseurs extros qui me poursuivaient ? »
« L'un d'eux s'est posé non loin d'ici. Le seigneur de la douleur a pris pour lui son équipage. »
« Qui est le seigneur de la douleur ?»«
Viens, » fit Moneta.
La cité morte se terminait en désert. Le sable fin balayait du marbre blanc à demi enfoui sous les dunes. À l'ouest, un vaisseau de descente extro était posé avec son diaphragme de chargement ouvert. Non loin d'eux, sur une colonne de marbre abattu, un thermocube offrait du café chaud et des petits pains frais. Ils burent et mangèrent en silence. Cassade fit un effort pour se remémorer les légendes d'Hyperion.